il est 20h. Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Cinquième République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez Tous Politiques, la nouvelle émission politique de Transistor. Pour ce tout premier numéro, je suis en compagnie de Maëlys, de Maxime et de Rémi. Bonsoir à tous.
Bonjour Mathias.
Bonsoir Mathias.
Moi, président de la République. Vous connaissez par cœur cette anaphore, celle de François Hollande, élu face à Nicolas Sarkozy le 6 mai 2012 avec 51,64% des suffrages. Mais 2012, c'était il y a 4 ans. Et que dire de ces 4 dernières années ? Mariage pour tous et manif pour tous, scission entre la gauche de gouvernement et la gauche des frondeurs et les écologistes, aléa de la courbe du chômage, attentats terroristes de Charlie Hebdo à Nice, État islamique, guerres au Mali et en Syrie, crise des réfugiés, et j'en passe. Les années ont passé, charriant avec elles des rebondissements, des déceptions, et aussi peut-être des espoirs, qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, où la campagne présidentielle de 2017 bat son plein. L'échiquier politique s'est recomposé en 4 ans, et je vous propose de le parcourir un peu, de gauche à droite. Mélenchon d'abord. Il est reparti en campagne avec sa France insoumise et fait cavalier seul. La primaire écologiste, dont les résultats sont attendus début novembre, a déjà évincé Cécile Duflot, qui avait déjà claqué la porte du gouvernement en 2014. Une autre primaire s'annonce à gauche, celle de la Belle Alliance Populaire, nouveau nom du Parti Socialiste, qui compte déjà comme candidat Arnaud Montebourg, ancien ministre du Redressement Productif, Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale pendant 2 mois, et Marie-Noëlle Linenmann, François de Rugy et d'autres, j'en passe. En attendant, évidemment, que François Hollande se déclare, ou non, à la candidature. Un président, vous le savez, très bas dans les sondages, et qu'une partie de la gauche ne souhaite pas revoir en 2017. Et des rumeurs de couloirs prédisent déjà Manuel Valls, l'actuel Premier ministre, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, déjà candidate en 2007, ou encore Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, pour se présenter à la place du président à la primaire socialiste. Bon, la gauche est bouleversée sur sa gauche, mais aussi sur sa droite, par le phénomène Emmanuel Macron, qui a lui aussi quitté le gouvernement récemment et qui a lancé son propre mouvement En Marche, EM, comme Emmanuel Macron. Au centre maintenant, François Bayrou a fait le choix d'Alain Juppé, mais n'hésitera pas à se lancer dans la campagne si Nicolas Sarkozy remportait la primaire de la droite et du centre. Rayez la mention inutile. Cette primaire, avec déjà 7 candidats, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson, du Parti chrétien-démocrate, voient déjà s'affronter la droite sur ces thèmes de prédilection. Insécurité, terrorisme, islam et chômage. À l'autre bout de l'échiquier politique maintenant, le Front National, qui est en tête dans les sondages avec sa candidate, Marine Le Pen, qui plafonne à 30% d'intention de vote. Vous l'aurez entendu, ce résumé peut sembler laborieux et confus. Et je vous propose donc, pendant cette année électorale, d'essayer d'y voir un peu plus clair, mais non sans humour, avec des chroniques, des journaux, des interviews de politiciens et de personnes engagées. Car au fond, il est grand temps de s'intéresser à la politique, car nous sommes les premiers concernés. Bref, nous sommes tous politiques. On commence tout de suite avec Maëlys, qui va nous parler d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Maëlys.
Bonjour tout le monde, bonjour Mathias. Bon alors, est-ce que je suis la seule à m'être intéressée à la primaire écologiste parmi vous ? Non ? Donc un petit récapitulatif sur cette primaire de l'amour, comme le titrait joliment Libération.fr le 27 septembre dernier, à propos du premier débat télévisé sur LCP Public Sénat, opposant les quatre candidats qui avaient réuni le nombre de parrainages suffisants et qui étaient en parfaite osmose sur le fond de leur programme. Donc, comme je suppose que tout le monde dans cette pièce était devant Public Sénat à 18h mardi 27 septembre, pas la peine de vous présenter les candidats et leur programme. Si
oui, un peu quand même.
Bon alors, rapidement, hein, pour les retardateurs. Donc, en lice cette année, pour devenir candidat écolo en 2017, Yannick Jadot, député européen de la circonscription Ouest. Circonscription Ouest. Quelle région?
La Bretagne.
Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charente depuis 2009. Ex-directeur de campagne de Greenpeace. Oui Mathias, toi qui es tourangeau, c'est un de tes représentants au Parlement européen. Cécile Duflot, donc 41 ans, ex-madame Logement dans le précédent gouvernement Hérault, députée mais surtout ex-secrétaire nationale des Verts entre 2006 et 2012. Bref, la favorite, la plus médiatisée mais aussi l'une des plus clivantes. Karim Adeli, 37 ans, la Benjamine, ex-députée européenne de la circonscription Île-de-France, et actuelle députée de la circonscription Nord-Ouest, personne pour Nord-Ouest, Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, vous êtes au point. Militante de longue date pour une écologie sociale au service des plus démunis. Et la dernière, Michel Rivasi, 63 ans, député de la circonscription sud-est depuis 2009. Sud-est.
Ça, je connais. Corse, Marseille.
Rhône-Alpes, et PACA, anciennement directrice de Greenpeace et active militante anti-nucléaire. Et Cocorico, ancienne normalienne de Fontenay, agrégée de sciences net, ancienne enseignante. Bon, ça ferait une bonne petite interview pour Yuvan, non? Vous croyez pas? Bref, 3 femmes et 3 jeunots de moins de 50 ans sur 4 candidats, 0 mise en examen, 0 peine d'inéligibilité, bref, une primaire résolument iconoclaste par rapport à ce qui se fait ailleurs. Suivez mes yeux à droite. Bon, 5 autres candidats n'ont pas pu se qualifier faute de parrainage, et 3 ont finalement renoncé à se présenter, donc Noël Mamère, le maire de Bègle le plus célèbre, et ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2002. Nicolas Hulot, ex-monsieur Ushuaïa, qui a renoncé malgré un très fort engouement politique et médiatique autour de sa personne. Et Rémi Cerda, étoile montante de l'écologie normalienne, monsieur Anvers 2016, secrétaire d'Alliance, webmestre de Transistor et attaché parlementaire de Sigebert Autancourt, qui a lui aussi renoncé, faute de pouvoir dilater son emploi du temps à l'infini. Bon, bonnet blanc, niveau programme. Plus de social, plus d'Europe, plus d'écologie, plus de vert. On est chez Europe Écologie Les Verts. On fait du Europe Écologie Les Verts et on ne reprend pas les idées puantes et de toute façon inconstitutionnelles de notre voisin juste pour lui piquer ses voix d'ici le mois de mai. Tous sont pour l'instauration d'un revenu de base inconditionnel divergent, mais ils divergent quant à ses modalités de financement. Tous sont pour la légalisation du cannabis. Tous sont pour une transition énergétique. Ils ne sont juste pas d'accord sur quoi faire en premier. Est-ce qu'il faut arrêter les centrales nucléaires, construire des éoliennes, supprimer le diesel? Voilà. Le point qui fâche, ce sont surtout les relations avec ces traîtres à la gauche du Parti Socialiste. Donc Rivasi et Deli ne pactiseront pas avec plus à droite qu'elle. Jadot et surtout Duflot, jadis dans un gouvernement socialiste, sont plus ambigus. Bon alors, nous sommes tous au courant des résultats de ce premier tour, outre le fait que le vote se faisait par correspondance, qu'aucune pièce d'identité n'était demandée aux électeurs, et que Raphaël Besse-Desmoulières, journaliste au Monde, racontait lundi en 8 sur lemonde.fr comment elle avait réussi à faire voter son chat Gaston Lecat à la primaire écolo. Il n'y a a priori pas eu trop d'irrégularités, et les dés ont été jetés mercredi dernier avec les résultats que nous savons tous. Jadot et Rivasi au second tour, Deli et Duflot disqualifiés. Bim badaboum! Duflot, l'insider, la seule candidate à avoir exercé des responsabilités exécutives, à avoir une vraie visibilité dans les médias, à avoir incarné le parti pendant 7 ans, rayé de la sorte. C'est bien mal remercier les services rendus au parti, et c'est un peu suicidaire à l'heure où l'on bassine les Français, avec l'idée que la France attend, telle réponse dans sa tour, le futur homme politique, salvateur, charismatique, providentiel, rayé la mention inutile, qui saura mener la barque à travers les incertitudes et les défis du XXIe siècle. Bref, quand tous les partis cherchent dans leur rang cette tête présidentielle qui saura lever les foules, chez les Verts, on coupe les têtes qui dépassent, comme le titrait joliment Geoffroy Clavel pour le Huffington Post mercredi dernier. Donc je cite l'article. En jardinage, couper les têtes est un exercice délicat qui permet parfois d'assurer la reprise chez les jeunes plants. Chez les Verts, on pratique l'élagage à la faucheuse et à n'importe quel âge. Un jeu de coupe-coupe où toutes les têtes qui dépassent sont appelées à tomber les unes après les autres. Donc Julien Bayou, porte-parole des Verts, confie ainsi aux journalistes. C'est le syndrome Astérix. Chez nous, le statut de favori n'est pas un atout et on défend toujours les minorités. Bon, ça s'annonce bien pour la présidentielle, hein, où la règle, c'est quand même de réunir une majorité de voix. On se souvient d'Eva Joly qui avait évincé Hulot. en 2012, ma mère qui avait évincé Lipier en 2002, d'Emmanuel Cosse et de Jean-Vincent Placé qui ont fini par démissionner, ce parti n'étant plus à la taille de leurs ambitions. Bref, comment comprendre ce qui apparaît au prime abord comme un suicide présidentiel ? Donc c'est là où la science politique peut nous éclairer. Donc il faut un peu élever le débat hein, pour que ça devienne intéressant. Donc là, je m'appuie sur un article de Florence Fauché-King dans, qui est intitulé « Les Verts et la démocratie interne » dans un ouvrage collectif dirigé par Florence Hegel en 2007, « Les partis politiques et le système partisan en France ». Donc en 1984, les Verts sont créés par le regroupement de militants associatifs ayant pour beaucoup en fait participé à mai 68 et à divers mouvements post-68A. Ils cherchent à investir la compétition politique en contestant la monopolisation du pouvoir par les professionnels de la politique dans les partis. Donc en gros, ils prônent un idéal démocratique à la place du fonctionnement traditionnel des partis, quoi. Donc ça va se passer par trois motos en fait, qu'ils vont affirmer dans tout leur fonctionnement interne. Donc premier moto, assurer le pluralisme. Donc sachez messieurs que la plupart des élections en interne chez les Verts se font à la proportionnelle et à la majorité qualifiée, pour que ce soit un minimum consensuel. Je vous dis pas les débats. Prévenir l'établissement de hiérarchie dans les partis. Donc, et oui, parce qu'ils ont l'huile de la sociologie politique et ils savent comment ça se passe. Et bon, De Gaulle en 68, quoi. Donc, ils préfèrent les illustres inconnus consensuels et peu charismatiques et ils s'amusent à faire jouer au tourniquet les élus pour ne pas qu'ils deviennent indéboulonnables. Et troisième moto, faciliter la participation. Donc les réunions sont en général, chez les Verts sont en général ouvertes à tous les membres, même aux chats, et tout le monde peut prendre la parole. Donc de là, un sacré bazar exposé en public. Conséquence de tout ça, les désaccords soigneusement cachés au public dans les autres partis affleurent au grand jour chez les Verts, d'où une image un peu brouillée du parti qui donne l'impression d'être perpétuellement en crise. David Cormon, actuel secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, soutien du Flo, a même parlé de prime à la bordélisation en mai dernier, inhérente selon lui au fonctionnement des Verts, ces vieux libertaires qui prônaient, et lui en fait prônait au contraire une union sacrée pour faire face à 2017. Pas sûr qu'il ait été entendu, visiblement, vu les résultats de ce premier tour. Et vous, Cécile Duflo, comme victime collatérale de mai 68, ça vous parle ?
Merci beaucoup Maëlys. Et on change maintenant d'horizon avec Maxime qui va nous faire traverser les Ardennes et nous parler de nos amis les Wallons.
L'heure est grave. Les médias américains nous annoncent une grande nouvelle qui révolutionne notre compréhension du monde. Nous autres, les capitalistes, ne sommes plus seuls dans l'univers. Nous venons d'apprendre l'existence de la Wallonie. Alors, c'est une étrange contrée aux mœurs probablement médiévales qui représente environ la moitié du territoire d'un petit pays d'Europe que l'on appelle la Belgique, mieux connue par le nom de sa capitale, Bruxelles. Oui, parce que Bruxelles, c'est pas seulement les frites et l'Union européenne, c'est aussi la capitale d'un État souverain qui est issu des anciens Pays-Bas espagnols, qui a été sous domination néerlandaise et libéré en 1830. La Wallonie, donc, région fédérée de Belgique, a pour capitale la ville de Namur et s'étend sur un triangle Lille-Aix-la-Chapelle-Luxembourg d'une superficie de 16 000 km², ce qui représente pour nos auditeurs de France l'équivalent de la superficie de l'ancienne région du Limousin et aussi deux fois celle de la Corse, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je dis ça en fait car manifestement c'est très important. Bien des médias anglophones, de la CNN à la BBC en passant par le Globe and Mail, présente cette cocasse affaire en insistant sur cet enjeu de taille. La situation a de quoi surprendre, vous comprenez ? Voici des années que des gens sérieux, avec des cravates, ont élaboré ce texte fouillé et poétique, dont la version finale comporte 2344 pages. Ces gens du commerce ont décidément une obsession pour les chiffres. Le petit nom qu'ils lui ont choisi est à ce titre éloquent, CETA, pour Comprehensive Economic and Trade Agreement, avec le Canada. Comprehensive ne signifiant pas qu'il s'agira d'être attentif aux attentes de chacun, mais bien qu'il s'agit de tout mettre dedans. Alors ça, c'est un faux ami sur lequel on fait souvent des erreurs. Il faudrait en informer nos députés socialistes qui ont mal compris le sens du mot. Sinon, ils se seraient opposés à ce traité comme nos courageux amis Wallons, à n'en pas douter. C'est pas compréhensif. Hein. C'est bien que ça inclut tous les domaines. Absolument tous, comme l'explique un article du Monde. En échange d'une ouverture de nos marchés aux bœufs et aux porcs canadiens, par exemple, sans hormones, a-t-on cru de bon ton de préciser, nous pourrons augmenter de 50% la quantité de délicieux fromages dont nous leur ferons bénéficier sans droit de douane. En échange d'un accès des entreprises européennes au marché public canadien, pour leur vendre par exemple des locomotives Alstom, lol, le Canada s'engagera à reconnaître parmi d'autres l'AOC du Reblochon de Savoie. Toutes ces affaires odorantes étant bien entendu posées sur la toile de fond d'une convergence des normes alimentaires, des standards et d'une facilitation accrue de la circulation des capitaux qui, les pauvres, vous comprenez, sont si nombreux à se masser à nos frontières et à s'empiler dans des bidonvilles en attendant qu'on veuille bien s'occuper d'eux. Bon, dans tout cela, pas grand-chose de nouveau. Mais notre cher traité est plus ambitieux encore, ce qui n'a pas manqué d'interpeller notre tout aussi cher gouvernement wallon, si peu occupé, tellement qu'il se passe visiblement jamais rien dans cette minuscule arrière-cour de l'Europe, qui se sont trouvés avoir le temps de gaspiller leur attention à s'écarquiller les yeux sur des broutilles. Parmi les broutilles qui les ont crispées, il y a cette affaire peu claire d'arbitrage. L'idée étant qu'un peu comme des joueurs de foot autocrates, on suppose que les États impliqués dans l'accord pourraient, à terme, en venir à adopter une interprétation des règles du jeu quelque peu défavorable à l'échange. Les investisseurs ainsi zlatanés auraient la possibilité de demander recours devant un tribunal composé de 15 juges, dont 5 Européens, 5 Canadiens et 5 tiers absolument neutres, dont on ne peut absolument pas imaginer par exemple qu'ils seraient américains. Hein. Bon, en cas de carton rouge, l'auteur de la faute serait invité avec sourire et sympathie à prodiguer du pain et des jeux à sa foule excitée et à rentrer dans le rang. Malheureusement, la technique des remplaçants libéraux proposée par la CIA n'est plus utilisée à ce jour. Dernière chose interpellant la Wallonie, les modalités d'application de ce traité. Le Canada, attendant fébrilement de notre union sa réponse, tel un jouvenceau hâté de célébrer les fiançailles, notre commission a cru bon d'en ratifier une mise en place temporaire en attendant d'avoir l'accord de tous les parlements d'Europe, y compris le sien, comme le nécessite la procédure lorsqu'une décision touche aussi bien ses prérogatives à elle, que celles de ses membres. Pas bête, la commission. Elle avait bien vu que tous nos États membres ont des assemblées à majorité libérale, sauf la nôtre, bien sûr, mais on a vu pourquoi nos socialistes s'étaient trompés. Pourquoi faire attendre la cérémonie alors qu'on sait qu'on va dire oui ? Alors voilà, on avait envoyé tous les faire-part, on avait couru chercher le maire, le curé, le traiteur, on avait dressé les tentes, et puis coup de tonnerre, la Wallonie annonce qu'il serait tout de même un peu hâtif de signer un papier sans savoir ce qu'il y a dedans. Paul Magnette, le chef du gouvernement de Wallonie, s'est lui-même demandé s'il fallait, ce sont ses propres mots un peu spécistes, je l'accorde à nos auditeurs végétariens, acheter un chat dans un sac. Vous comprenez ? Ça serait un peu comme s'inscrire à une formation sans savoir à ce à quoi ça nous engagerait. Bref, la confiance règne. Comme je le disais, donc, voici des années que des gens sérieux, avec des cravates, des porte-documents et des sourcils froncés très très sérieux, ont effectué ce lourd travail pour le bien commun des 505 millions d'Européens et 36 millions de Canadiens. Et voilà que cette infime petite molécule de 3 millions d'habitants viendrait nous mettre des bâtons dans les roues. Mais où va-t-on, ma bonne dame, où va-t-on ? Bien que les militants capitalistes ne soient pas encore descendus dans les rues pour défendre leur position tant malmenée, on a entendu grogner. Travail de sape, gâchis, doute d'amateur, comment peut-on laisser parler ces gens-là ? Eh bien, c'est que le régime fédéral belge ne peut choisir d'ignorer la voix de ses communautés et de ses régions. Ce sont les flamands libéraux eux-mêmes qui l'ont voulu. Bruxelles, celle des frites, s'est trouvée forcée de dire non à son tour à Bruxelles, celle des lobbies. Notre grande union, dès lors, elle qu'on taxe souvent d'antidémocratisme, se retourne contre les majorités qui la dirigent. Qu'un seul membre vous manque et tout est dépeuplé. Quand la voix de chacun compte, ce n'est plus la taille qui joue. Face aux cris, j'ai lu des Québécois qui l'avaient bien compris, eux qui représentant moins de 2% de la population du Canada ont l'habitude de défendre avec un certain succès leurs spécificités au sein de leur État. Ainsi, notre union, celle-là même qui se trouve si souvent accusée de nous faire pleuvoir les retombées des lobbyistes, devient notre parapluie contre un traité libéral. L'humour belge a décidément beaucoup de puissance. Aussi, capitalistes de tous les pays, prenez garde. Si les 3 millions de Wallons ne sont pas tous défavorables au traité, si ce blocage inhabituel est aussi le fruit d'une situation politique particulière, le petit nombre d'Européens qui se sont trouvés en position de s'exprimer par la voix de Paul Magnette dépasse de loin les frontières belges. Une hostilité latente commence à s'élever. Bien sûr, elle inclut une bonne part de souverainistes qui profitent de l'occasion pour dépoussiérer de vieux thèmes de campagne, comme l'ami Dupont-Aignan qui s'est dépêché d'offrir une éclairante interview à notre grande revue politique nationale, Le Parisien. D'amusants observateurs ont d'ailleurs rapproché nos amis Wallons de notre épouvantail de service, Donald Trump, assez froid à l'idée de traiter avec l'Union des Républiques Européennes Socialistes Soviétiques, et donc assez hostile à l'idée de ces traités transatlantiques. Je n'en tire pas moins un petit espoir que les gens à qui les barbelés n'inspirent pas de lyrisme réalisent que les limites utilisées à bon escient, c'est-à-dire pas forcément contre des gens qui fuient la guerre par exemple, sont parfois bien utiles quand il s'agit de se couvrir du vent. Au fond, s'il est si compliqué d'être comprehensive, nous pourrions aussi bien tenter d'être compréhensifs et de prendre notre temps comme les Wallons ont su le faire. Plus que la région Astérix que nous présente Libération, c'est une région finalement plus sérieuse que nos bonhommes en cravate que je retiendrai de cette histoire. Si sérieuse même qu'il y a, pour changer, une pétition qui circule actuellement sur le net pour demander le rattachement de notre douce France à l'heureuse et minuscule, n'oublions pas, Wallonie.
Merci Maxime. J'avais commencé par dire que on avait deux chroniques sérieuses et une chronique un peu décalée,
mais je crois
que toutes nos chroniques ont été teintées d'humour. Et donc je laisse la libre parole à Rémi pour conclure cette émission.
Avec une chronique sérieuse, puisqu'aujourd'hui on va parler de mort-vivant.
Alors,
rassure-toi, Mathias, il ne va pas être question de vers de terre grouillant dans des orbites enflammées par les feux de l'enfer. Il n'y aura pas non plus de foule hurlante de masses de chair morte rongeant la morale et la civilisation. On ne parlera même pas du retour d'Alain Juppé non plus. Non, en fait, je vais vous annoncer une grande nouvelle pour l'humour et ces milliers de petits soldats vaillants auxquels je ne désespère pas d'appartenir un jour. La manif pour tous est de retour, Mathias.
C'est magnifique.
Alors, la manif pour tous, j'explique peut-être pour ceux de nos auditeurs qui n'écoutent ni la messe ni les actualités. 2012, juste avant la fin du monde. Bon, une négresse essaie d'autoriser les PD à bafouer l'auguste institution maritale et les sphincters anneaux que leur a offert le bon Dieu en s'y mettant des doigts élargis par une alliance. Voilà, alors manque de bol, elle est ministre. Et la majorité des Français est de son côté. Du coup, ils se fâchent tout rouge. Enfin, tout rose, faut pas déconner non plus. Voilà. Avec un petit peu de bleu aussi. Niveau des couleurs, les drapeaux, ça fait un petit peu les mêmes coloris que les couches culottes. Après, on a l'impression qu'ils disent de la merde, mais en fait, c'est juste un hasard. Enfin bon, du coup, voilà, la loi finit par passer en mai 2013. Et du coup, en bon perdant, ils continuent de manifester. Feignant d'ignorer qu'au-delà des saintes frontières du 16e, pédérastes et lèches-glaires s'embrassent jusque dans nos mairies, si le maréchal voyait ça. Enfin, pardon, je m'égare. Ouais, en fait, ce mariage, c'est un peu comme un plat un peu lourd qu'on a fini par arriver à consommer et puis qui voudrait nous faire revomir. Leur drapeau, en fait, ça devrait être une traînée jaune avec des petits bouts de viande mal digérés. Enfin bon, aujourd'hui, leur truc, c'est la PMA et la GPA. Il y a un truc qui est déjà réglementé et l'autre qui n'est pas à l'ordre du jour, si vous voulez. C'est bientôt, ils vont lutter contre l'occupation de l'Espagne par les bougnoules et la réélection de François Hollande. D'ailleurs, les gars, 4%, hein. 4% François Hollande. Les gens ont une bonne opinion de 3 orteils de François Hollande et le reste, c'est acheté. Enfin bon, revenons à nos agneaux et surtout à la brebis d'honneur. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Geneviève. Ah, vous savez, Geneviève, c'est la dame qui a mis un suppositoire sur sa tête parce que le bon Dieu a dit que dans le cul, c'est interdit. Donc, Geneviève, fleuron de la lutte contre les stéréotypes sur le genre, comme chacun sait, se réveille après 60 ans de mort politique et intellectuelle et, entre deux slogans Algérie française, arrive avec une idée.
I have a dream.
Geneviève rêve, oui, vous l'avez entendu. Geneviève rêve cachée dans son chapeau. Et elle rêve d'un guerriage. La voilà, la solution pour résoudre la paix dans le monde et éloigner les sodomites de l'écharpe tricolore de nos mères pour ne plus y laisser de traces de caca séropositif. La voilà la solution, un autre mariage, un clone. Certains parlent même déjà d'autres noms, comme celui de Pax, pour désigner ce concept issu de la procréation intellectuelle sénilement assistée entre la petite mère des jolis seins juvéniles et les protozoaires de bénitier de la manif pour tous. Bon, je finis cette chronique vite fait avec ma propre solution pour la paix entre les peuples, si vous le permettez. Ce serait un mariage réservé aux vieux réacs en mal de sensations fortes. On appellerait ça un vieil conneriage et je connais un chapeau qui va adorer.
Merci Rémi pour cette chronique qui me fait manquer mes adjectifs. Et merci encore à vous qui nous avez écoutés, car l'émission arrive à son terme. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau numéro de Tous Politiques, toujours sur Transistor.